Vous écoutez RTL.
Et tout de suite, la véritable histoire de nos expressions préférées. Bonjour Marie-Dominique Poré.
Bonjour.
Soyez la bienvenue. Vous êtes agrégée de grammaire, professeure de grec en classe préparatoire au lycée La Bruyère de Versailles. Et tout de suite, on se remet bien droit avec Thomas. On a l'impression de se retrouver en classe prépa. Dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on utilise beaucoup d'expressions qui viennent du grec et du latin ?
Beaucoup, énormément, et même du vocabulaire. Les gens ne se rendent même plus compte qu'ils parlent latin et grec, même sans le savoir. Ils sont tous des petits monsieur Jourdain.
C'est vrai. Et puis, alors, ce qui est incroyable, c'est que derrière ces expressions, on va le voir ensemble, il y a beaucoup de dieux et de déesses.
Bien sûr. Toujours des rapports entre les divinités et les humains, qui avaient beaucoup à s'entendre dans l'Antiquité, oui.
Oui, et qui se disputaient beaucoup aussi.
Il faut dire aussi que les dieux se disputaient entre eux, mais les dieux aussi étaient souvent amoureux des mortels, surtout Zeus. Oui.
Bon, donc de la bagarre, de l'amour, des expressions françaises, voilà. C'est du bonheur. Je ne suis pas riche comme Crésus, je ne me repose pas sur mes lauriers, mais il m'arrive d'être laconique.
Et c'est tout vous, ça ?
Tout ça, ça vient du latin et du grec. À tout de suite sur RTL.
On est bien entre curieux.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Apollon tombe éperdument amoureux de Cassandre. Il lui offre alors ce qu'elle a toujours voulu désirer, le don de prophétie.
La curiosité est un vilain défaut.
Alors carpe diem, parce qu'il faut du temps pour les gens qui s'aiment.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Champs-Élysées, Cassandre, carpe diem, nous utilisons du latin et du grec, sans le savoir, tous les jours, à la façon de monsieur
même les rappeurs.
Jourdain, même les rappeurs. Nous sommes avec Marie-Dominique Poré, agrégée de grammaire. On va les effeuiller, ces expressions, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir leur histoire, ce qu'il y a derrière. Thomas disait tout à l'heure qu'il n'était pas riche comme Crésus. C'est qui Crésus ? Où vivait-il ?
Alors Crésus, il vivait en Lydie, c'est le roi de Lydie du 6e, au 16e siècle avant Jésus-Christ.
C'est l'ancienne Turquie, la Lydie, c'est ça ?
C'est exactement, enfin, c'est l'ancienne Turquie,
oui, c'est l'ancienne
voilà.
Turquie.
Et il avait fait, sa notoriété vient du fait qu'il était très riche, parce qu'il a eu la chance de trouver un fleuve qui s'appelait le Pactole. Et que ce fleuve, effectivement, était charrié en permanence des pépites d'or. Donc être riche comme Crésus, c'est avoir effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
Donc ça veut dire que c'est un homme très heureux, Crésus, ou bien il lui est arrivé des bricoles ?
Alors, il aurait pu être heureux, mais il lui est arrivé des bricoles, parce qu'en fait, il avait fait venir chez lui un philosophe qui s'appelait Solon, et il avait dit « Est-ce que je ne suis pas l'homme le plus heureux du monde ?» Et Solon lui avait dit « Non, on ne peut pas dire que quelqu'un est heureux avant qu'il soit mort. » Et effectivement, peu de temps après, il perdit son fils qui est mort d'une attaque, et lui-même fut fait prisonnier par le roi de Perse. Comme quoi, effectivement, la sagesse veut qu'on ne se dise pas toujours heureux avant l'heure fatidique.
Et si on cherche une morale à cette histoire, on pourrait dire quoi ? L'argent ne fait pas le bonheur aussi ?
L'argent ne fait pas toujours le bonheur.
Oui. Et donc ce Crésus, il doit sa richesse au fleuve Pactole,
oui.
D'où une autre expression qu'on connaît bien,
voilà, toucher le Pactole. Alors, toucher le Pactole, c'est toucher le gros lot. Mmh. C'est effectivement pouvoir avoir une grande somme d'argent pour en faire ce qu'on veut. Le Pactole, c'était donc toujours cette même petite rivière. Alors cette histoire de Pactole, elle a une autre origine, c'est Silène. Qui était en fait le père nourricier du dieu Dionysos, qui fut un jour secouru par Midas, qui était un roi de Phrygie. Et en guise de remerciement, il lui dit « Que veux-tu que je fasse pour te faire plaisir ?» Et le roi, qui était quelqu'un de très cupide et un petit peu sot, lui dit « Je voudrais que tu transformes tout ce que je touche en or. »
Ah, il va être puni.
Forcément, il va être puni parce qu'il a eu beaucoup d'or, mais même sa nourriture, donc il ne pouvait plus manger. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a redemandé à nouveau à Dionysos son aide en lui disant « Mais qu'est-ce que je peux faire pour ôter maintenant ce sortilège ?» Et c'est là que Dionysos lui a dit « Tu vas aller tremper tes mains dans l'eau du fleuve Pactole. » Et c'est là, c'est ce jour-là qu'en trempant ses mains, où il s'est lavé les mains pour enlever ça, c'est là que le sable s'est changé définitivement en or. Et c'est en fait Crésus qui en a bénéficié.
Et le roi Midas, alors, pour tous ceux qui vont changer leurs pneus chez lui, la vraie histoire ?
Ils ne savent pas que... Mais c'est là, c'est un roi des Perses, Midas. Et c'est vrai que Midas, il y a beaucoup de noms de publicité qui utilisent maintenant, sans qu'on le sache aussi, des noms propres de personnalités anciennes. Oui.
Marie-Dominique Poré, vous publiez « Être né de la cuisse de Jupiter et 99 autres expressions héritées du grec et du latin » aux éditions First. Et j'y ai pioché une expression que j'adore utiliser, c'est « ouvrir la boîte de Pandore ». Est-ce que vous nous rappelez déjà
qui était Pandore ?
Ce qu'elle veut dire, cette expression. Ouais.
Alors ça veut dire, alors moi j'appelle ça dans mon livre, ouvrir la boîte à, avec un E comme emmerde, parce qu'en fait c'était une boîte dont elle a hérité. Alors Pandore, son nom veut dire tout cadeau. En fait Pandore, c'est le pendant, si je puis dire, de Ève. C'est-à-dire que c'est la femme idéale qui a été créée et toute formée à base de terre et d'argile.
Par laquelle les emmerdes arrivent, c'est ça ?
Alors, je vais expliquer pourquoi, parce que la boîte, c'est la boîte, c'est pas elle. Ah oui. Et donc, en fait, il y avait deux frères, il y avait Épiméthée et puis il y avait Prométhée. Bon, Prométhée, c'est celui qui est intelligent, sauf qu'il est quand même allé voler le feu aux dieux, et ça lui a été effectivement fatidique. Mais surtout, il avait un frère, Épiméthée, qui s'est emballé pour cette créature faite de toutes pièces, à savoir Pandore. Et on lui avait dit, surtout, ne t'intéresse pas à Pandore, c'est une femme, c'est un objet funeste, attention, attention à la femme. Et donc, il s'est quand même embourraché d'elle. Et donc, il l'a prise, il l'a épousée, et elle est arrivée en dot avec un cadeau qui était une immense jarre dans laquelle il y avait tout un tas de choses, en lui disant surtout, il ne faut pas ouvrir cette jarre. Et puis, comme tout le monde sait, la femme est curieuse. Et puis,
notre petite... C'est vous qui l'avez dit, hein.
Voilà, mais non, mais je le reconnais. Pandore a ouvert la boîte, et donc tout est sorti, y compris les mauvaises choses qui se sont répandues dans le monde. Et par chance, heureusement, que finalement, elle va quand même réussir à refermer cette boîte au dernier moment, laissant simplement au fond de la boîte l'espérance. Et c'est cette espérance qui nous permet maintenant à nous tous de supporter tous les malheurs que nous pouvons encore avoir.
Quelle belle histoire.
Donc Pandore est liée à un projet de vengeance, si
oui,
j'essaie de résumer.
Exactement,
hein, c'est ça.
Exactement. Elle avait été créée par les dieux, elle a été créée toute pièce, comme on avait envoyé Aphrodite, on avait envoyé Apollon pour lui donner des dons.
C'était un appât, quoi.
Un petit peu un appât, voilà. Et en fait, c'est Épiméthée qui est tombé dedans, le pauvre. Épiméthée veut dire celui qui pense après. Étymologiquement, ce qu'il peut comprendre.
Et Prométhée, c'est celui qui
et
pense avant.
C'est celui
donc.
Qui pense avant, voilà. Donc en fait, c'est Épiméthée qui a commis la faute.
D'une manière générale, il faut mieux penser avant qu'après. Sinon, on fait quelques bêtises. Tiens, ça, j'ai pas fait ni latin ni grec. Pardon, excusez-moi. Hein,
Vous
n'avez pas fait vos humanités
mais, non. Et donc, j'ai découvert pour la première fois, et c'est vrai, cette expression en lisant Astérix. Veni, vidi, vici.
Oui.
C'est quoi ça?
Ce sont
ça
les paroles de César lorsqu'il a franchi le Rubicon.
Oui.
Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Bon, qui est connu parce que c'est en rythme ternaire, parce que ce sont à chaque fois des mots à deux syllabes. Et ça permet effectivement de dire, en fait, il ne devait pas franchir le Rubicon, mais il s'est dit, allez, j'y vais, parce que c'était le seul moyen de conquérir, et il l'a fait. Et c'est devenu une expression historique maintenant qu'on emploie pour dire qu'on va nécessairement à une victoire.
Alors, on va continuer d'effeuiller ces expressions, et derrière ces expressions, des dieux et des déesses, vengeurs, en colère. Mais pourquoi tant de violence? La réponse tout de suite sur RTL.
Votre matinée sur RTL. 9h, laissez-vous tenter, Yves Calvi.
Ciné, télé, expo et musique, durant une demi-heure, nous passons en revue toute l'actualité culturelle sur RTL.
Ça peut vous arriver à 9h30 avec Julien Courbet.
Nous rétablissons le dialogue avec celui ou celle qui vous pose problème, et le tout dans la bonne humeur.
11h à la bonne heure avec Stéphane Bern.
Chaque jour, des invités prestigieux qui se dévoilent et s'amusent avec mes chroniqueurs.
Vous êtes bien sur RTL.
RTL, première radio de France.
D'où viennent nos expressions préférées? C'est le thème de notre curiosité avec Marie-Dominique Poré, agrégée de grammaire, professeure de grec en classe préparatoire au lycée La Bruyère de Versailles. Grâce à vous, on est devenu riche comme Crésus, on a touché le pactole, on a ouvert la boîte de Pandore. Ça, c'était...
On est plus intelligent et cultivé, quoi.
Oui, grâce à Prométhée et Épiméthée. Épiméthée, c'est celui qui pense
après
avoir agi, et c'est quand même dommage. Tiens, voici une nouvelle expression très courante en français, être laconique. Parler peu.
Ça vous arrive jamais, ça, Thomas?
Non, jamais. Je suis incorrigiblement bavard. D'où vient cette expression?
Alors, puisque j'ai un petit peu de temps, je vais peut-être être la plus longue sur cette expression-là.
Allons-y.
Alors, une expression laconique, c'est une expression qui est sommaire, hein, péremptoire et courte. On parle avec une expression qui utilise peu de moyens.
Oui.
Pourquoi on dit laconique? Cela vient du nom d'une région qui s'appelle la Laconie.
C'était où?
Qui se situe au sud-est du Péloponnèse. Mmh. Et où habitait donc, dont la capitale était Sparte. Et les Spartiates avaient une réputation auprès des Grecs d'Athènes d'être des gens un peu rustres, frustes, qui vivaient de manière très simple, qui vivaient en étant surtout très peu loquaces.
Et oui, alors comment on associe cette région, la Laconie, au fait de parler peu ou
parce
bref,
qu'ils parlaient effectivement peu, ils mangeaient peu, ils parlaient peu, c'était
d'accord.
Des gens qui avaient une éducation très difficile, très dure, c'était des guerriers avant toute chose, alors qu'à Athènes, c'était on parlait beaucoup, on faisait des discours. C'était beaucoup moins civilisé. Pour eux, les Spartiates, c'était des barbares, un tout petit peu déjà à leur porte.
Et d'ailleurs, il est arrivé une mésaventure à Philippe de Macédoine qui essaye d'entrer à Sparte.
Voilà.
Qu'est-ce qu'il demande et qu'est-ce qu'on lui répond?
Alors voilà, un jour où Philippe a voulu rentrer dans la cité de Sparte, la réponse lui a été faite. La réponse a été non. Ne voulez surtout pas de fil de
sans explication. Non, mais
juste répondu non.
Non.
Alors Philippe.
Ça, c'est comme quand nous, journalistes, on fait une question qui dure genre 45 secondes, une minute, une minute 30.
Ça
nous arrive jamais avec Sidonie, mais je ne citerai pas des confrères. Et l'invité répond Non.
Voilà, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle effectivement, moins j'en dis, mieux je me porte, et c'était très rapide. Mais comme Philippe était un petit peu têtu, il va répliquer, il va redemander une autre fois, il se réadresse à Sparte et il leur dit, écoutez, si j'entre en Laconie, dans votre région, ben alors je vais vous détruire. Et là, les Spartiates ont encore fait également très fort. Leur retour fut encore plus court, ils ont dit si.
Oh, c'est formidable.
Pour le cas où vous pourriez enfin vraiment rentrer chez nous. Voilà.
Être né de la cuisse de Jupiter et 99 autres expressions héritées du latin et du grec, c'est le titre du livre que vous publiez aux éditions First. Être né de la cuisse de Jupiter. Moi, j'ai dans la tête toujours l'expression de Coluche qui disait être né dans la cuisine de Jupiter. Bon, il ne connaissait pas toujours bien ces expressions.
C'était un jeu de mots, c'était génial.
C'est quoi être né de la cuisse de Jupiter?
Bon, alors, effectivement, alors, nous touchons à un sujet qui est important parce que c'est peut-être le premier père porteur de l'humanité. Parce qu'effectivement, en principe, la gestation se fait dans le corps d'une femme. En fait, tout le monde sait que Zeus était un mari volage et donc il avait en quelque sorte une relation extra-conjugale avec Sémélé, qui était une mortelle. Et de cette relation extra-conjugale, sa propre femme, Héra, va vouloir se venger. Donc un jour, elle va voir Sémélé et elle lui dit, voilà, tu ne connais pas bien Zeus, il faudrait que tu le vois vraiment dans sa nudité totale pour savoir qui est vraiment Zeus. Alors Sémélé va suivre cette consigne. Elle reçoit donc un soir Zeus et elle lui dit, est-ce que je peux vraiment te voir tout nu, tel que tu es vraiment? Et Zeus, bon, s'est déshabillé, mais tout en gardant quand même ses attributs guerriers qui étaient la foudre et le tonnerre, dont il ne pouvait pas se départir. Ouais. Et ce qui devait se passer, s'est passé, c'est que Sémélé n'était qu'une mortelle et que effectivement, elle s'est toute enflammée par la flamme de la foudre qui est sortie de Zeus. Et donc, en fait, elle est morte. Elle s'est enflammée comme une torche. Et à ce moment-là, comme elle portait déjà dans son ventre Dionysos, celui qui allait être Dionysos, au dernier moment, Zeus s'est rendu compte qu'elle avait dans son ventre ce petit. Donc, il est allé le récupérer. Il l'a pris et il l'a introduit dans sa cuisse. Et il a en fait recousu sa cuisse et la gestation en fait du petit Dionysos s'est faite dans la cuisse de Jupiter.
Jupiter et Zeus, ce sont les mêmes dieux, hein, bien sûr.
Jupiter, pardon, c'est chez les Romains et Zeus, c'est chez les Grecs. Voilà. Et donc c'est un père porteur. Pour moi, c'est le premier père porteur de l'humanité qui a donc mis après au monde Dionysos. Et Dionysos, c'est un mot qui veut dire deux fois né, puisqu'il a eu deux naissances, une qui aurait pu être par sa maman et la seconde qui a été faite en fait par son papa.
Vous nous rappelez, c'est le dieu de quoi, Dionysos, déjà?
Alors, Dionysos, c'est le dieu de l'ivresse, du théâtre, de la démesure. Hein. C'est un enfant un tout petit peu foufou.
Pourquoi derrière toutes ces histoires, il y a des dieux, il y a de la violence, il y a de la vengeance? C'est pire que Dallas.
Oui, mais justement, moi, j'ai sorti un livre sur la Grèce antique pour les nuls, où j'ai dit que la tragédie, c'était effectivement une saga à la Dallas. C'est le Dallas de l'Antiquité, exactement.
Mais ce sont des exemples à ne pas suivre, finalement, pour les Latins et les Grecs de l'Antiquité? Ou c'était des exemples à suivre? Il y avait une morale?
Il y avait quand même une certaine forme de morale. Bon, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais c'est vrai que c'est bien. Alors, être né de la cuisse de Jupiter, ça a pris après une acception un petit peu ironique. Parce que de l'idée qu'on est né au sens propre de la cuisse de Jupiter, après, quand on dit qu'on se croit sorti de la cuisse de Jupiter, là, c'est parce que cela prouve qu'effectivement, on se croit.
On a le melon, quoi.
Pas n'importe qui, puisqu'on vient de Zeus. Mmh. Et là, ça prend une tournure beaucoup plus négative dans l'emploi de l'expression être sorti de la cuisse de Jupiter.
Ouais. On se la pète un peu, quoi.
On se la pète.
C'est pas le genre de la maison à la curiosité. En revanche, on aime bien travailler. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais d'où vient cette expression? On en parle dans un instant.
Vous écoutez RTL.
Fille des chantres bêlants qui taquinent la muse érotique.
RTL.
Les pharisiens, les béotiens, les aoussiens, dans leur auto roule presto, tombeau ouvert, descendant vers la grande mare, en passant par Montélimar.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Regardez les avant d'atteindre sa chimère, plus d'un l'aile rompue et du sang plein les yeux.
Jusqu'à 15h sur RTL.
La chimère, les béotiens taquinaient la muse. Georges Brassens adorait puiser dans le latin grec pour écrire ses magnifiques chansons. On explore la face cachée de nos expressions préférées avec Marie-Dominique Poré, agrégée de grammaire. On entend le générique de Dallas.
Pour ceux qui viennent d'arriver,
parce
mais pourquoi
que souvent, derrière toutes ces expressions, c'est ce qu'on découvre depuis le début de l'émission, il y a des histoires de dieux et de déesses qui se trompent, qui se rabibochent, qui s'assassinent. Enfin bref, c'est Dallas. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ça, c'est une expression qu'on entend toujours beaucoup aujourd'hui. on en perd parfois le sens. Vous nous rappelez ce que ça veut dire ?
Alors, ça n'est pas une expression liée à la légende. C'est un exemple de grammaire latine.
Ah.
Vous avez, je pense, entendu quand on dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Cela se dit en latin « fit faber fabiendo ». Et donc, on entend « faber » et « fabiendo ». En fait, on a la même racine d'un mot pour dire qu'en fait, pour résumer, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, parce que tout s'apprend, et je pense qu'à l'époque actuelle, il faut le dire, tout peut absolument s'apprendre.
Ah, mais tout s'apprend avec le temps et l'expérience, c'est ça que
bien
ça
sûr.
Veut dire aussi ?
Aussi, c'est-à-dire que c'est le travail qui va faire que, tout le monde connaît l'homo faber, cet homme qui fabriquait avec ses mains, puisque la racine de fab, c'est la racine de la fabrication. Mmh. Il faut savoir que les Romains étaient des gens très, très, très concrets, qui étaient très pragmatiques, beaucoup plus que les Grecs qui étaient eux tout à fait des gens conceptuels, et que comme tout s'apprend, c'est une expression qui est restée, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Rabelais a dit lui-même, l'appétit vient en mangeant, c'est en mangeant qu'on commence à avoir envie de manger.
Donc il faut être dans l'action,
toujours
avec
dans
patience.
L'action permanente. Bon, on pourrait connaître...
Comme on fait son lit, on se couche.
Voilà.
Qui dordine, voilà.
On
s'arrête.
Ouais, on
c'est
arrête
un peu
plus,
différent.
Là.
Bon, c'est que ça pourrait correspondre à Paris, ne s'est pas fait en un jour,
ouais.
Il faut véritablement avancer. Peut-être connaissez-vous aussi à l'époque, pour les restes Restaurant Flunch, ils avaient dit à Auchan, la publicité pour venir, c'était l'appétit vient en flunchant, qui a été repris sur cette expression.
En latin, ça donne quoi l'appétit vient en flunchant?
Le verbe flancher, bon, étant
un néologisme,
je ne sais pas vous dire. Bon, de manière très poétique, le poète Raymond Queneau a dit, c'est en lisant qu'on devient liseron.
Joli.
Ça, c'est pour se mettre un petit peu de poésie.
Et c'est en écoutant la curiosité qu'on nourrit sa curiosité.
Voilà, et qu'on devient curieux et qu'on continue, grâce à vous, de découvrir le sens, l'origine de ces expressions. Par exemple, j'ai une épée de Damoclès.
Oui, ça fait une heure que je vais vous dire.
C'est sympa de me prévenir. Chantez bien qu'il y avait quelque chose qui allait me gratter. Ça vient d'où ? Qui était Damoclès ?
Alors, Damoclès était un orfèvre de l'époque qui rêvait en fait d'être riche et qui était plein d'admiration pour le tyran de Syracuse sous lequel il vivait, Denis de Syracuse. Donc un jour, il va le voir, il lui dit, voilà, j'aimerais bien vivre ta vie. En fait, c'était un peu ça, il voulait vivre la vie de l'autre. Et le tyran de Syracuse lui dit, mais c'est pas de problème, tu viens, tu vas vivre, tu vas voir ce que je vis tous les jours. Parce que lui, il ne voyait que la face cachée, la face agréable, c'est-à-dire l'argent, l'opulence, le luxe. Donc il lui dit, ben viens, puisque tu as envie tant ma puissance, tu vas voir ce qui se passe. Donc au milieu du repas, notre courtisan, effectivement, Damoclès, va lever la tête. Et là, il va s'apercevoir qu'au-dessus de sa tête, il y a un fil avec une épée qui pend. Ce fil est un crin de cheval, donc très, très, très bien attaché, mais qui en fait manifeste, qui témoigne du danger permanent que vit un tyran. Voilà, la fragilité en fait de son pouvoir. Mmh. Et il s'aperçoit enfin comme ça que c'est une arme à double tranchant et que être un tyran, finalement, la vie du tyran en fait, ne tenait qu'à un fil.
Mmh. Dans cette émission, grâce à toute l'équipe, Perrine Suquet, Coralie Lutini, André Facetta, Caroline Dang, Bastien Robin, on ne s'endort pas sur nos lauriers.
Alors,
votre défi, c'est en 30 secondes de nous dire d'où vient cette expression. Qu'est-ce qu'il symbolise les lauriers
dans
l'Antiquité?
Alors, le laurier, c'est une plante aromatique, comme chacun sait. Mmh. C'était surtout la plante d'Apollon, à cause de la gentille nymphe Daphné qui s'était métamorphosée en laurier pour échapper à ses avances. Voilà, donc le laurier, c'est l'attribut aussi de toute la guerre, des soldats, des militaires.
De la victoire, de la gloire.
La gloire, l'immortalité. Et c'est surtout sur ça que peut-être il serait intéressant de terminer. Au Moyen-Âge, je ne sais pas si vous le savez, dans les écoles de médecine, on saignait la tête des jeunes docteurs en rameaux de laurier, garnis de baies, d'où les baies de laurier. Et quand je dis baie de laurier en latin, baccalauréa, tout le monde a entendu
notre
baccalauréat.
Eh ben voilà.
Ah,
merci
formidable,
beaucoup,
merci
bravo.
Beaucoup pour cette agilité. Marie-Dominique Poré, être née de la cuisse de Jupiter et 99 autres expressions héritées du latin et du grec, c'est aux éditions First.
Vous écoutez RTL.